Bonsoir, nous sommes ici dans le hall du conservatoire, nouveau conservatoire de Belfort, en présence donc, de François Delalande, qui intervient dans le colloque éducation, création et numérique, co-organisé donc, par le conservatoire de Montbéliard et de Belfort. Donc bonsoir, enchanté monsieur.
Bonsoir.
Alors petite question que je voulais vous poser, d'essayer de résumer votre parcours qui est très riche. Vous êtes ingénieur et évidemment compagnon de l'ORTF et entre autres du GRM. Alors quelques mots sur votre parcours.
Ah ben, mon parcours c'est entièrement le GRM. Alors voilà, je suis arrivé au GRM en 1970. Alors pourquoi je suis arrivé au GRM alors que j'étais ingénieur? C'est un peu bizarre. J'ai pas du tout fait un travail d'ingénieur. Je suis venu tout simplement parce que j'avais lu un bouquin qu'un copain m'avait donné, qui était le traité des objets musicaux de Schaeffer, et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que j'étais ingénieur que je pouvais le lire, j'étais ingénieur et musicien, et donc, j'étais tout à fait en face de la problématique de ce livre-là.
Ouais. Alors, hier, vous êtes intervenu dans une communication intitulée « Création musicale des enfants et adolescents à l'âge du numérique ». Alors, malheureusement, je n'ai pas pu y assister, donc c'est un propos pour lequel on vous a... Sur lequel on vous a invité à vous exprimer. Mais justement, vous qui avez connu cette époque qui n'était pas avec le numérique, et au niveau de la pédagogie, justement, c'est un des termes clés de votre intervention. Qu'est-ce qui aurait changé au niveau de la pédagogie entre les années avant le numérique et aujourd'hui, ces années dans lesquelles nous sommes?
Alors, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, justement, dans cette intervention, c'est que le numérique est un perfectionnement par rapport à quelque chose qui avait déjà commencé bien avant. Et que le véritable changement, c'est justement au milieu du XXe siècle, l'apparition de la musique qui a été faite, non pas avec des instruments et avec l'écriture, c'est-à-dire nécessairement avec le solfège, mais au contraire avec des sons qui étaient assemblés, quelle que soit la source, hein, qui étaient assemblés d'une manière finalement relativement intuitive, empirique. Et ça, tout d'un coup, ça a rendu la composition accessible à des gens qui n'avaient pas besoin du solfège, qui étaient des enfants, des amateurs, et ça commence avec les enfants. Alors, ce que j'ai raconté un petit peu, c'est qu'en réalité, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on fait le lien entre les tout petits enfants, la crèche, c'est-à-dire les enfants qui, en crèche, produisent des sons avec des objets ou avec leur voix, et qui font des espèces de répétitions et variations. C'est très bien connu, c'est un phénomène bien connu en psychologie, c'est ce qu'on appelle les réactions circulaires. Ils font un truc par hasard, je sais pas quoi, ils disent c'est chouette, ils recommencent, mais ils font des variations. Et du coup, c'est très proche de ce qui se fait dans la musique contemporaine depuis la musique concrète, je dirais, mais électroacoustique. Alors, au début, on ne savait pas comprendre cela. Maintenant que la musique s'est rapprochée d'une certaine manière des enfants, il y a une espèce de rencontre qui historiquement est un phénomène très intéressant entre les productions des enfants et les productions des compositeurs. Alors ça, je prends là par le bout de la petite enfance. Petite enfance qui va à l'école maternelle, etc. Après ça, il y a eu l'informatique. Alors, l'informatique, ça a été vraiment la bouée de sauvetage pour les profs de musique du secondaire, parce que c'était quand même beaucoup mieux que la flûte à bec, et que du coup, on pouvait faire des choses qui étaient plus proches de l'univers musical des adolescents. Donc, ça a marché très bien. Et maintenant, on essaye de faire un peu le raccord, si je puis dire, entre les petits et les grands. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est là que le numérique, alors là, change tout, c'est qu'on rejoint aussi des compositions d'adultes. Alors, il se trouve, on le sait maintenant, qu'il y a beaucoup de gens qui, chez eux, ont un ordinateur et font de la musique et créent de la musique, composent de la musique chez eux. On sait, bon, il y a eu une étude en 2002, c'est déjà vieux, qui évaluait à 1 million le nombre de personnes en France qui font de la musique, qui créent de la musique chez eux.
Et qui donc démocratisent davantage l'appropriation de cette création.
C'est-à-dire que ça devient logique pour les enfants d'aborder la musique par la création, ce qui n'était pas du tout le cas dans le temps, évidemment. Et comme les compositeurs font de la musique, comme les amateurs peuvent faire chez eux de la composition, du coup, on voit une espèce de continuité qui se construit. Alors socialement, c'est très important parce que les compositeurs qui font de la musique chez eux, en réalité, ils n'ont pas envie de devenir, enfin, quelquefois, quelques-uns, de devenir des vedettes internationales. Ils font de la musique pour les copains, il y a une espèce de ce que j'appelle une société horizontale qui s'est créée, contrairement à la société hyper verticalisée des compositeurs hyper forts, avec qui personne ne pouvait rivaliser. Et là, au contraire, il y a une espèce de communauté de gens. Et du coup, ça, devient possible de communiquer avec eux, je dirais, entre le, par exemple le collège, le lycée et les amateurs, il n'y a plus de discontinuité. En fait, le collège doit faire maintenant des anciens élèves qui vont être des compositeurs, qui vont travailler chez eux. Et toute cette société-là, c'est un fait social immense.
Alors tout à l'heure, vous citiez Pierre Schaeffer et peut-être nous conter peut-être une anecdote avec lui ou quelqu'un d'autre, puisque le GRM a accueilli de nombreux compositeurs, puisque vous y avez exercé de 70 à 2006. Voilà, un souvenir ou une rencontre marquante pendant ces décennies au sein du GRM.
Alors, oui, avec Schaeffer, la chance de ma vie, c'est qu'un jour, j'ai commencé par faire un espèce de stage d'observation au GRM, où j'ai écouté plein de choses, j'ai écouté des bandes, des musiques, mais aussi des enregistrements de séances du conservatoire, enfin beaucoup de choses. Et puis, quand je suis parti du stage, on m'a dit, est-ce que vous voulez faire ce serait bête, que puisque vous avez fait un stage un peu long, que vous faites un espèce de petit compte-rendu. Alors j'ai fait un petit compte-rendu, et j'ai donné ça à François Bell, qui l'a probablement pas lu, mais qui l'a passé à Schaeffer, qui l'a lu, parce que je l'ai croisé dans l'escalier, il m'a dit, tiens, j'ai lu votre petit compte-rendu, là. Dites à Bell que votre place est au GRM.
Donc vous restez en quelque sorte.
Alors là, c'était vraiment pour moi un changement dans ma vie, c'était vraiment fantastique. Donc oui, mon contact avec Schaeffer, il a été... Mon premier contact avec Schaeffer,
c'est la lecture, ça. Ça plus la rencontre suite à votre...
Bon, après, j'en ai eu d'autres. Hein. J'en ai eu d'autres. Je l'ai remplacé dans une université à Aix-en-Provence où il avait accepté un poste auquel il a oublié d'aller. Alors, il a cherché quelqu'un, c'était moi. Enfin, donc, oui, des anecdotes avec Schaeffer, j'en ai pas mal. Mais enfin, déjà, ces deux-là, c'est pas mal.
Oui, oui. Et puis, peut-être pour clore, vous avez cité que vous avez débuté, finalement, la rencontre avec cette forme de recherche musicale par la découverte de son fameux ouvrage. Alors, est-ce qu'il y a un autre livre, peut-être, ou même un disque comme ça, dont vous pourriez nous dire quelques mots, qui est un document un peu support ou que vous aimez à faire découvrir à vos étudiants, aux gens devant lesquels vous vous adressez lors de diverses occasions?
Alors, peut-être qu'il y a une œuvre, et qui est en même temps un livre d'ailleurs, qui est emblématique, c'est le De Natura Sonorum de Parmigiani. Anna Parmigiani a fait une pièce, alors le disque déjà, enfin la musique elle-même, c'est une pièce en différents mouvements, De Natura Sonorum, de la nature du son. Et pour moi, ça me paraît extrêmement intéressant parce que justement, ce qui s'est passé avec l'espèce de révolution de la musique électroacoustique qui a fait qu'on faisait de la musique avec des machines et non plus avec des partitions, c'est qu'on travaillait sur le son. Et que, du coup, alors ça c'est encore vrai, hein, vous écoutez n'importe quelle musique, surtout les musiques électroniques, les musiques modernes, etc. C'est toujours un travail sur le son. Ce qu'on vient d'écouter ce soir, là, c'était une musique dans laquelle il y a une partition au début. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait, des sons, comment elles sont traitées, comment ils sont incorporés, comment ils sont triturés, voilà, il y a un traitement derrière. Et finalement, ce qui réunit toutes les musiques qui se font depuis au moins 30 ans, mais je dirais depuis le milieu du XXe siècle, parce que c'est sûr, on en dirait autant du rock, enfin c'est très général ce phénomène-là, c'est que c'est un travail sur le son. Alors, De Natura Sonorum, c'est vraiment, je dirais, le propos de cette œuvre-là, c'est de montrer quelle est la nature du son. Alors, il y a différents mouvements, il y en a un, le premier qui s'appelle par exemple Incidence-Résonance, alors c'est un mouvement qui fonctionne avec des attaques et des résonances. Alors tout le travail est sur les résonances qui font des petites ondulations, des wouah, il y a tout un... Et puis chaque mouvement comme ça traite la matière sonore d'une manière différente.
Et vous disiez que c'était aussi un livre, donc voilà, c'est à la fois son et un texte théorique, c'est
non,
ça?
Non, il se trouve que après que cette œuvre existait déjà depuis un certain temps, on a eu le projet de montrer comment la musique était faite, d'une certaine manière, pensée et faite. Et donc on a fait un livre avec des camarades, Jean-Christophe Thomas, Philippe Nion et par ailleurs Jean-Jacques Nettier a fait aussi un commentaire plus général, mais c'était d'expliquer comment cette musique avait été faite. Alors c'est en fait la base, c'est des entretiens avec Parmigiani, l'auteur de la musique, et qui a expliqué quelle était son intention, enfin comment il pensait les choses. Ça, c'est Jean-Christophe Thomas qui a fait ça. Et puis, comment ça a été fait matériellement, quelle manip, enfin, si je puis dire.
Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, François Delalande, pour ce petit entretien comme ça, un peu impromptu. On vous souhaite une bonne troisième journée de colloque demain. Et merci infiniment pour cet échange fort agréable. Merci à vous.
Je vous en prie.